19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Et oui, vous l'entendez, je remplace exceptionnellement Valérie aujourd'hui, mais rassurez-vous, vous retrouverez votre animatrice préférée dès le mois prochain. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Et nous accueillons ce soir Aimé et Sophie.
Bonsoir à toutes et à tous.
Ravi de vous retrouver.
Bonsoir à vous deux et merci Pierre pour la réalisation. Dans cette émission, nous allons exceptionnellement rediffuser l'entretien de mars 2023 avec la HAVAS, l'aide aux victimes d'agressions sexuelles, en l'absence d'invités. Mais d'abord Sophie, tu vas nous parler dans ton édito des JO 2024.
Oui, cette semaine nous parlons de la très controversée organisation des Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris l'année prochaine. En effet, les JO 2024 posent de nombreuses questions sur les droits humains et ces derniers temps, les mauvaises surprises s'accumulent.
De quel genre de surprise veux-tu parler ?
Eh bien, très récemment, de nombreux journaux comme Le Monde ont dénoncé la volonté affichée du gouvernement de déplacer hors de la région parisienne des milliers de sans-abri et notamment des migrants à l'approche des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de rugby qui se déroulera cet automne. Le ministère du Logement brandit l'argument de la baisse du nombre d'hébergements dans la capitale à cause de nombreux hôtels qui refuseraient de prendre en charge ces personnes précaires.
Mais en quoi cela pose-t-il problème ?
Le problème est que, au vu du contexte et de l'arrivée imminente de millions de touristes, une partie de l'opinion publique et de nombreuses associations y voient davantage une forme de nettoyage des rues et d'invisibilisation de la pauvreté, pourtant bien réelle à Paris. De plus, cette décision précipitée engendre des conflits avec les communes provinciales chargées d'accueillir ces sans-abri, alors qu'elles ne sont souvent pas mieux équipées. De nombreux maires s'indignent du traitement vétuste qui leur sera accordé, d'autant plus que l'État n'a pas prévu de fonds spécifiques pour les aider à construire de nouvelles infrastructures. Ce n'est pas tout. Les SDF ne sont pas les seuls à devoir se plier aux exigences de l'organisation des Jeux Olympiques.
Qui donc encore pourrait être visé ?
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les étudiants boursiers d'Île-de-France, hébergés dans des Crous, vont être obligés de quitter leur appartement durant l'été 2024, après une requête émise par l'État.
Mais pour quelle raison l'État implique-t-il les étudiants dans cette histoire ?
Tout simplement parce que les résidences étudiantes seront réquisitionnées pour loger tout le personnel nécessaire au bon déroulement des Jeux, comme les agents de sécurité, les soignants, les bénévoles. Le problème avec ce genre de mesures, tout comme avec les déplacements de SDF, tient au fait que l'État fait subir à des populations fragiles les conséquences d'une mauvaise gestion du logement et son manque de financement de logements sociaux et d'urgence.
Mais si je ne me trompe pas, Sophie, ce n'est pas le seul scandale lié aux Jeux Olympiques. Peux-tu nous en dire plus à propos notamment de la situation des travailleurs sur les chantiers ?
Tout à fait. Il y a aussi des interrogations sur cette question. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête à la fin de l'année dernière pour se pencher sur le sujet des travailleurs sur les futurs sites des JO. Des journalistes se sont aussi emparés de l'affaire et ont découvert qu'énormément d'ouvriers sans papiers sont embauchés à bas coût, sans contrat et sans congé, ce qui est évidemment illégal. De plus, les horaires ne sont pas fixes et les conditions de travail parfois dangereuses. Une situation qui nous rappelle tristement celle de la Coupe du Monde de Qatar, qui avait aussi été l'objet de nombreuses controverses. La France a donc elle aussi du travail à faire pour offrir les mêmes droits à tous les travailleurs et ses manquements doivent être pointés du doigt.
Et puis, rappelons la mise en place de caméras de surveillance.
En effet, cette mise en place de caméras de surveillance, alimentée par l'intelligence artificielle, la IA, pour les JO, a été votée par l'Assemblée nationale 2 mois après un feu vert du Sénat. Le gouvernement souhaite expérimenter à grande échelle l'installation de caméras assistées en temps réel par des algorithmes afin de repérer les comportements suspects, y compris les bagages abandonnés et les mouvements de foule inquiétants en vue des événements sportifs de grande ampleur de l'année prochaine. L'opposition de Grouche a répliqué que cette surveillance de masse par l'IA était sans précédent dans les sociétés démocratiques et menaçait dangereusement les libertés civiles. Ils craignent également que les mesures pour l'instant expérimentales ne deviennent permanentes. Le précédent des JO 2008 à Pékin démontre selon eux que les Jeux ont déjà été utilisés pour tester des dispositifs de sécurité invasifs qui n'ont jamais été désinstallés depuis. Dans un pays davantage préoccupé par la réforme des retraites, la NUPES n'a pas réussi à rassembler suffisamment de soutien contre le texte, ni à réveiller l'intérêt sur ce sujet. L'article a été adopté par 59 voix contre 14.
Merci beaucoup, Sophie. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et voici maintenant la rediffusion de notre entretien avec la HAVAS.
Nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Jean-Jacques et Anne de l'association AHAVAS, donc Association d'aide aux victimes d'abus sexuels. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord votre association ?
Alors, l'AHAVAS est née d'une réflexion, il y a environ 30 ans maintenant, de professionnels du terrain qui œuvraient auprès de jeunes filles, de jeunes femmes accueillies dans des foyers d'hébergement suite à souvent à des ruptures familiales et qui, pour beaucoup, avaient vécu des violences sexuelles. Et disons que les mères de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles étaient invitées à venir parler autour de leur situation. Et parmi ces mères, une quantité importante avait été elle-même victime sans que rien n'ait été fait à l'époque, et il y avait à l'époque un délai de prescription beaucoup plus réduit que maintenant, ce qui fait qu'il n'y avait plus aucun recours pour elles. Donc ces professionnels se sont dit qu'au moins ce qui pouvait leur être offert, et peut-être à titre de prévention d'une répétition dans la génération suivante, un lieu de parole. Mmh. Donc ces professionnels ont pu créer l'association qui est née le 1er mai 1996, donc bientôt 27 ans maintenant. Alors, ces professionnels étaient tous et toutes issus du médico-social. Donc, il y avait infirmières, éducateurs, éducatrices, assistantes de services sociaux et infirmières et psychologues. Donc, on crée cette association avec un dispositif d'accueil en binôme pour toute personne souhaitant venir parler de son histoire alors qu'il n'y avait plus, par exemple, de recours en procédure judiciaire. D'accord. Au départ, l'idée était d'accueillir la parole, ce qui à l'époque, on n'était pas encore à l'époque de MeToo, de Balance ton porc, il n'y avait pas eu la médiatisation de nombreuses situations dans les différents milieux tels qu'on la connaît actuellement. Et la première année, il y avait juste deux permanences par mois, dans un petit appartement de la rue Saint-Jacques. Le premier et le troisième lundi du mois, il y a dû y avoir entre le 1er mai et le 31 décembre, il y a eu 6 personnes. Sont venus. Et on va faire un grand pas dans l'histoire, dans le temps en tout cas, pour dire qu'on est en train de boucler les statistiques 2022 et actuellement on reçoit à peu près 400 personnes, on va dire, par an, entre Angers et Cholet, parce qu'il faut préciser qu'il y a une permanence à Cholet.
D'accord.
Mmh. Oui, j'en profite là, puisque tu mentionnes la permanence à Cholet, je fais partie d'un binôme qui intervient sur Cholet et on reçoit donc toutes les semaines, on a une permanence pour accueillir les Choletais et les personnes de l'agglo, Choletais, Choletaises. Hein, oui, voilà. Et si je me souviens bien, enfin dans les chiffres qui avaient été l'an dernier donc donnés à l'Assemblée générale, on devait être à plus de 1700 entretiens. L'année dernière, hein, pour l'année, voilà. D'accord. Cette année, je pense que on est en train de, voilà, d'affiner un peu tout ça, mais je pense qu'on doit encore être au-delà de ce nombre d'entretiens. Donc ça suppose effectivement beaucoup de temps, hein, de voilà, d'autant qu'on est à deux à chaque fois. Et les bénévoles, heureusement, il y a un réservoir, je dirais, de bénévoles qui finalement se renouvelle assez régulièrement d'ailleurs. Et on est une vingtaine de bénévoles.
Voilà. Formidable. D'accord. Mais la HAVAS, alors c'est Angevin uniquement?
L'association a son siège à Angers.
Angers, oui.
Je ne crois pas qu'il existe une association identique à la nôtre sur la France, puisqu'on a souvent, on a quelquefois des appels de personnes qui nous demandent s'il y a d'autres à HAVAS ailleurs.
Ah,
non,
d'accord.
Non. Il y a d'autres formes effectivement de permanence, d'écoute, d'accueil, d'écoute, pas comme nous. Hein. Je veux dire que.
D'accord. Voilà. On vient de parler de MeToo. Là, est-ce que vous avez constaté justement depuis quelques années que la parole se libère plus facilement?
Oui. Oui, c'est vrai que oui, bien sûr. Alors, dire qu'il y a davantage d'agressions, enfin en ce moment, bon, on peut pas vraiment affirmer ça. Par contre, que les personnes effectivement viennent parler de ce qui leur est arrivé, ça augmente régulièrement. Et c'est ce qu'on encourage, bien sûr. Hein, il faut que la parole se libère le plus tôt possible.
Oui, parce que certaines personnes parlent après des dizaines d'années de secrets enfouis, c'est ça?
Oui, on reçoit quelquefois des personnes âgées qui viennent nous parler de ce qui leur est arrivé quand elles étaient enfants, bien sûr.
Mm-hmm. Oui, Jean-Jacques. Alors,
si on parle de libérer la parole, moi je dirais que, effectivement, comme vous le signaliez très justement, il y a des personnes qui ont vécu des dizaines d'années avec leur secret, soit il faut savoir aussi qu'une proportion non négligeable des personnes qui s'adressent à l'association avaient pris la parole et n'ont pas été entendues et encore moins écoutées, spécialement parce qu'on est à peu près à 90% de violences perpétrées dans le milieu familial, sont des violences intrafamiliales, et il y a toutes les... des complètement folles, parce que c'est plus souvent des femmes qu'on accueille. Hein. Ce qui n'est pas le cas si on reprend le rapport Sauvé, mais on va peut-être pas voir où c'est là. Mais là, on parle des violences faites aux femmes. Donc, il y a une grande majorité de femmes. Et donc, t'es complètement folle, personne ne te croira, tu vas détruire la famille.
Ah oui,
Tu racontes n'importe quoi.
Une forme de chantage, quoi.
Voilà. Tu vas envoyer ton père en prison, ou ton frère, ou ton oncle, ou ton grand-père. Voilà un petit peu. Mais elles en avaient parlé. Alors, la nouveauté, c'est pas, je pense, c'est le constat que je crois qu'on fait dans différentes instances, je ne pense pas qu'il y ait davantage d'agressions actuellement, mais les personnes sont davantage entendues, on voit qu'il y a une grosse amélioration, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais au niveau du suivi des dépôts de plainte, déjà des dépôts de plainte, de l'accueil des personnes au moment du dépôt de plainte, et de la suite de la transmission au parquet. Il y a un documentaire remarquable qui s'appelle « Elle l'a bien cherché », qu'on peut retrouver facilement sous ce titre-là, sur Internet, « Elle l'a bien cherché », et qui traite du dépôt de plainte. C'est un documentaire fait par une documentariste qui s'appelle Laetitia Ounona, et c'est un reportage qui a été fait sur le commissariat de Nantes, d'ailleurs, qui suit le dépôt de plainte.
Je ne sais pas si vous avez vu « La nuit du 12 », c'est un film dont on a beaucoup parlé, qui est extraordinaire, puisqu'il parle justement d'un féminicide, et on a des réflexions... au sein du commissariat, genre, ah ben t'as vu comment elle était habillée ou autre délicatesse.
Ça reste encore, que est-ce ça que... vous serve de leçon, qu'est-ce que vous avez là à cette heure-là, ou un refus de plainte, de toute façon, vous étiez alcoolisé, enfin voilà.
Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations?
Oui, donc d'une part, la HAVAS fait partie d'un collectif Prévention Suicide 49, qui est un collectif de 12 associations, où on retrouve en particulier le CIFF, donc c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et de la famille, avec qui on travaille en partenariat étroit, parce qu'il n'y a pas de juriste à la HAVAS.
Ah, d'accord.
Il y a uniquement des professionnels issus du médico-social.
D'accord. Hein?
Anne parlait d'un collectif, enfin d'un groupe d'une vingtaine de bénévoles, mais qui assure tout de même l'équivalent d'un 5 temps plein. Plus... deux psychologues salariés et coordinatrices à mi-temps.
Et vous êtes basé où alors, les locaux pour accueillir les gens?
Alors, à Angers, c'est 8 rue Ambroise Paré. Le numéro de téléphone, c'est le 02 41 36 0207 et aussi le 07 67 19 01 85. Et puis, il y a un site qu'on peut retrouver sur Internet.
Oui. Et vous manquiez de bénévoles ou pas?
Disons que pas trop. Pas trop, mais de toute façon, il y a des conditions précises, c'est-à-dire être diplômé d'une des professions, des quatre professions que j'ai mentionnées. On a aussi, là, actuellement, on a des demandes de médecins pour intégrer l'équipe de médecins, voilà. On arrive à peu près à équilibrer entre les ressources bénévoles et...
Simplement, là, on a parlé binôme, effectivement, on reçoit toujours à deux, et dans le binôme, je précise, il y a toujours un ou une psychologue.
D'accord.
Hein, et d'autres personnes. Bon, moi, par exemple, je suis de formation assistante sociale. Donc, il m'arrive de recevoir avec Jean-Jacques, qui, lui, est psychologue. Hein, et toujours. Hein, c'est vrai que c'est une façon de. Et c'est très, très sécurisant, je trouve. Hein, le binôme.
D'être à deux, c'est une des conditions, je crois, aussi, de pouvoir entendre beaucoup de choses sans en être trop atteint.
Ah oui, d'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Et bonne continuation. C'est maintenant l'heure de notre pause musicale avec une chanson très militante et forte émotionnellement.
southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. The gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Quelle chanson. De retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Vous venez d'écouter Strange Fruit, en français d'étranges fruits, interprété par la merveilleuse Billie Holiday. Cette chanson des années 30 évoque l'horreur des lynchages des Afro-Américains dans le sud des États-Unis. Et c'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
Oui, depuis que les talibans se sont arrogés le pouvoir en août 2021 en Afghanistan, les femmes et les filles sont prises pour cible. Elles sont bannies de la vie publique, empêchées d'accéder à l'éducation, visées par des interdictions de travailler et de se déplacer librement. Emprisonnées, soumises à des disparitions et torturées, notamment pour avoir dénoncé ces politiques et résisté à la répression. Dans le nouveau rapport d'Amnesty intitulé « The Taliban's War on Women », nous dénonçons cette guerre menée contre les femmes afghanes. Il s'agit d'un système d'oppression et de persécution à caractère sexiste qui, selon notre analyse juridique, pourrait constituer un crime contre l'humanité. Nous plaidons pour que les femmes et les filles fuyant les persécutions en Afghanistan soient automatiquement considérées comme des réfugiés.
Le 19 mai au matin, Majid Kazemi, Saleh Mirachemi et Saed Yagoubi ont été exécutés en lien avec le soulèvement déclenché par la mort de Mahsa Amini en Iran. Avant eux, au moins 4 autres manifestants avaient déjà été exécutés. Plusieurs personnes risquent de subir le même sort. Les autorités iraniennes utilisent la peine de mort pour instiller la peur et faire taire toutes les voix dissidentes. Les Iraniens qui se trouvent aujourd'hui dans le couloir de la mort sont pour la plupart âgés de moins de 30 ans. Ce sont des jeunes qui sont tués, ce sont des enfants, c'est effrayant. C'est toute une génération que l'État est en train de détruire, a réagi Agnès Callamard, notre secrétaire générale d'Amnesty. Recourir à la peine de mort n'est pas nouveau dans le pays des Mollahs. L'Iran est le deuxième pays qui la pratique le plus après la Chine. En 2022, l'Iran a mené au moins 576 exécutions.
Les autorités israéliennes utilisent des outils de surveillance de plus en plus sophistiqués pour renforcer la ségrégation et automatiser l'apartheid contre les Palestiniens et les Palestiniennes. À Hébron et Jérusalem-Est occupés, nous avons réuni des informations montrant que le nouveau système de reconnaissance faciale, appelé Red Wolf, renforce les restrictions draconiennes auxquelles sont soumis les déplacements des habitants, en utilisant des données biométriques obtenues de façon illégitime pour surveiller et contrôler les déplacements dans la ville. Cette technologie repose sur un réseau dense de caméras de surveillance en circuit fermé qui permet d'observer de façon presque constante la population.
Deux arrêts rendus le 12 mai par la Cour de cassation relatifs à des affaires de crimes graves commis en Syrie ont reconnu la capacité de la France à répondre aux crimes internationaux les plus graves. Bien qu'elles permettent de confirmer la compétence des tribunaux français sur un nombre important d'affaires en cours, elles n'empêchent pas les conditions restrictives de demeurer dans la loi. Le gouvernement français devrait procéder à des réformes urgentes pour lever les obstacles juridiques qui menacent de faire de la France un refuge pour les responsables des pires crimes commis à travers le monde.
Total Energy se retrouve une nouvelle fois devant la justice dans une affaire liée au climat. Les 6 associations et 16 collectivités territoriales à l'origine de cette procédure accusent la multinationale de ne pas respecter son devoir de vigilance sur l'environnement. Face à l'urgence climatique, elle lui demande de faire des choix en adéquation avec les engagements de la France lors de l'accord de Paris. En tant qu'intervenant volontaire, nous soutenons aussi et appuyons cette coalition pour faire valoir la défense des droits humains et de l'environnement. Après son passage devant la justice pour défendre son méga projet pétrolier Tilenga ICOP en Ouganda, et en Tanzanie, c'est la deuxième fois que Total Energy est entendue sur une affaire liée au climat.
Dans une tribune initiée par SOS Homophobie, plus de 50 associations appellent le gouvernement à agir face aux violences commises en France contre les centres LGBTQI+, dont des actions en faveur de l'égalité et de la visibilité des personnes queer est essentielle. Le 22 mai, le centre LGBTI de Touraine a fait l'objet d'une attaque extrêmement violente lors de laquelle un individu a lancé à l'intérieur de locaux une bouteille contenant un mélange explosif et des débris de verre. On assiste à une recrudescence des discours anti-LGBTI et tout particulièrement des discours anti-trans dans la vie quotidienne, dans le débat public, sur Internet et les réseaux sociaux, dans les médias. Ces discours encouragent les passages à l'acte. En 2022, SOS Homophobie recensait une agression physique tous les deux jours à l'encontre d'une personne LGBTI. En se fondant sur les témoignages recueillis par l'association, la réalité étant sans doute plus sérieuse encore.
Nous alertons avec de nombreuses associations partenaires sur la manière dont les autorités françaises violent les droits des personnes exilées à la frontière franco-espagnole. Les contrôles touchent de manière discriminatoire les personnes racisées et conduisent au refoulement de nombreuses personnes sans respect de leurs droits fondamentaux. En violation de la législation nationale, européenne et internationale, telle la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et la Convention internationale des droits de l'enfant. Face à ces dérives, des initiatives locales fleurissent pour leur venir en aide et faire respecter leurs droits.
L'État vient d'être condamné pour le fichage de manifestants gardés à vue. En effet, le tribunal administratif de Lille a exigé vendredi que le ministère de la Justice et le parquet de Lille effacent les données personnelles des manifestants rassemblés dans ce fichier. Le tribunal avait été saisi de 2 requêtes en référé déposées par le syndicat des avocats de France ainsi que par la Ligue des droits de l'homme. Dans sa décision, le juge des référés estime que la constitution par le parquet en dehors de tout cadre réglementaire d'un fichier recensant les noms, prénoms et dates de naissance de chaque manifestant placé en garde à vue à l'occasion de manifestations contre la réforme de retraite ainsi que les suites pénales données porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des personnes concernées.
Et maintenant, une nouvelle pause musicale avant l'agenda.
A fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents, le reste de son âge, quand reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison, saison. Reverrai-je le clan,
petit village, fumer la cheminée. Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? De mon petit village, fumer la cheminée. Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages, plus meublé le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains, le front tout d'acier, plus que le marbre dur me plaît, l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douce Angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Traverser les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toutes ces eaux qui dort, qui polluent nos chemins, soi-disant pavés d'or. Quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
Nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 et c'est le temps de notre agenda militant et culturel.
Jeudi 15 juin, une journée de sensibilisation et de prévention autour de la lutte contre les violences au sein du couple est organisée par l'association Solidarité Femmes 49 à la salle Beaucite de Saint-Georges-sur-Loire. Il est encore temps de vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Au programme, une table ronde avec des professionnels l'après-midi, puis une conférence en présence d'Éric Bouillard, procureur de la République d'Angers. Retrouvez ces informations sur le compte Facebook de l'association.
Au cinéma Les 400 coups à Angers le 15 juin prochain à 20h passera le ciné-doc We Are Coming, chronique d'une révolution féministe de Nina Ford. La réalisatrice, connue pour ses travaux documentaires sur les violences gynécologiques, ouvre sa réflexion sur un tabou corporel. Pourquoi les femmes jouissent-elles moins que les hommes?
Pour rappel, le 20 juin, c'est la journée internationale des réfugiés. Et dans ce cadre, la coordination Migrants organise une projection débat au cinéma Les 400 coups avec le film Le Chant des Vivants de Cécile Allégra, qui donne la parole à plusieurs personnes qui ont survécu à l'exil. Elles nous confient avec poésie et émotion leur périple semé d'embûches et de violences et la façon avec laquelle elles tentent de se reconstruire.
L'association Al-Kamandjati a le plaisir de vous convier au Festival Les Orientales du 30 juin au 6 juillet entre Ingrandes, Saint-Florent et Angers. Il met à l'honneur des musiques traditionnelles et sacrées d'Orient et présente des interprètes de tout premier plan.
N'oubliez pas de faire un tour au Salon des Artistes pour la Liberté, organisé par le groupe 51 d'Amnesty à Angers, qui a lieu au Salon Kurnansky jusqu'au 11 juin prochain.
Les 30 juin, 1er et 2 juillet, à l'amphithéâtre de Gênes, le festival de flamenco des belles pointures sont attendus.
Il est déjà presque 19h30, le temps de conclure cette émission. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter l'émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. À très bientôt sur les ondes de Radio G.
Bonne soirée, à bientôt.